Salut Alex.
Salut Charline.
Bon, t'as bossé un petit peu l'invité du jour parce que bah, moi c'est vendredi et je suis relax.
T'inquiète, hein. On reçoit un comédien à gros succès.
Ah, oh non, ouais, non, tu m'as déjà fait le coup hier là. Non, parce que quoi, François Olivier, c'est ça, Jacques Sébastien, Antoine Michel.
Mais non, non, mais... non, je te donne un autre indice. Il était dans un duo comique qui joue depuis plus de 30 ans.
Oh, Isabelle et Patrick Balkany.
Mais non, c'est Régis Laspalès, voilà, voilà.
Ah, mais oh, j'adore.
Ah, bah tu vois.
Tous ces sketchs là.
Des sketchs en duo, notamment.
Oui, tu sais, la matmute.
Non, mais enfin, il a joué des très grands rôles, ce gars-là.
Bah, et la matmute.
Non, mais je veux dire, des grands auteurs comiques. Il a joué Fedot, Jean-Marie Poiret, Francis Weber, Laurent Ruquier.
Ah, oui, mais attends, pour l'auditeur d'Inter, qui a quand même beaucoup souffert, on peut pas oublier la matmute.
Oui, mais il a rempli des énormes salles. Voilà, c'est une méga star dans les foyers de France.
C'est ce que je dis. Il était sur le cul début, sur toutes les radios. Bon,
non, mais bon, Charline, tu me casses la tête.
Bah, écoute, si t'as la tête cassée, j'espère que t'as la matmute. C'est une question assurance.
Non, mais tu vas pas lui parler toute l'émission d'assurance. Je veux dire.
Bah, écoute, ça dépend.
Mais non, alors tu sais quoi, c'est moi qui vais conduire l'émission.
Ah, bah, voilà, écoute, ça me dérange pas parce que à la matmute, à la garantie du conducteur.
Non, mais écoute, mais non, il y a plein de thématiques. Je veux dire, c'est un petit-fils de vigneron, par exemple.
Ouais, c'est pas mal.
Ah, voilà, et son père a été inventeur. Il a fabriqué des skis sans neige. Il a gagné le concours Lépine.
Oh, dis donc, c'est super.
Ben voilà, voilà, c'est vraiment quelqu'un de formidable.
Ah oui, bah c'est ça, hein, c'est Régis Laspalès, il assure.
C'est comme Charline Panounaker.
Il assure.
Bonjour la France Inter.
Elle assure Charline Panounaker.
Vous écoutez la Start-up émission et voici la crème de l'actualité fouettée par la blague. Le livre d'Éric Zemmour vient de détrôner celui d'Amélie Nothomb au rang de numéro 1 des ventes. Tandis qu'en Hollande, Mein Steed, la version néerlandaise de Mein Kampf, est numéro 2, juste derrière un livre de recettes. Il en pense quoi, Éric Zemmour ?
Je n'ai jamais tremblé ni devant Hitler, ni devant personne.
Alors, cette rentrée théâtrale est marquée par un afflux de personnages historiques. Churchill, Hugo, Machiavel reprennent vigueur sur les planches. Le cinéma fait pareil, mais donc alors, que peut apporter de plus le théâtre ?
Jésus était son nom. Le nouveau spectacle de Robert Hossein.
Si je n'avais dû monter qu'un seul spectacle, j'aurais monté celui-là.
Ce n'est pas un sketch.
Tout d'un coup, c'est comme si toute la France était devenue fan de golf. Il y en a à la télé, à la radio, dans les journaux. La Riders Cup voudrait qu'on passe le week-end à regarder des trous. Est-ce que ça va suffire pour vous convertir ?
Ce sera un énorme projet. Je dois faire du consulting pour un terrain de golf pour des gens de petite taille. Mais...
enfin, mini-golf, quoi.
Voilà. Alors, j'ai pas de transition parce que ça risquait d'être cabreux.
Non, c'est pas nécessaire. Bonjour, Charline Panounaker. Je suis votre Philippe Chevalier. Autour de la table, une belle équipe. Une belle équipe à 17h20. Celle qui sait avant vous ce qui sera de la bonne musique. La Nostradamus des platines. Mélanie Bauer, bonjour.
Oh, j'adore. Et aujourd'hui, justement, je vais parler de la mort.
Non, c'est moi.
Ah, bah oui, j'allais dire, on y vient. À 17h30, Jules Renard a dit... Nous avons tous quelqu'un que notre mort arrangerait. Mais il ne savait pas que cette personne, c'était chaque fois. Christine Gonzalez, bonjour.
Bonjour, c'est la Fashion Week à Fribourg, l'occasion de... À Fribourg.
Oui, j'allais dire. C'est surprenant.
Fribourg, c'est d'où je viens. Oui. Ça n'a rien à voir. À Paris. Ça commence bien. Donc, l'occasion de faire un point style. Tout à l'heure, avec l'au-delà, Christian Dior est avec nous.
Elle est pétée déjà, la musique.
C'est foutu. Christian Dior, donc, est avec nous. Vous pensez quoi du style d'Alex Vizorek, monsieur Dior ? Il s'améliore avec les années, non ?
Oh, le visage plutôt rose et plus frais que les autres années, les cheveux plus souplement ondulés.
Ah, oh, bah, dis donc, je prends. Et je suis pour la Fashion Week de Fribourg. Et à 17h40, le jour où elle vendra plus de livres qu'Éric Zemmour, j'irai me retirer en Toscane avec la certitude que le monde est apaisé. Alors faites un effort pour nous expliquer que le pétinisme et la trottinette, c'est dépassé. Isabelle Sorrente, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis. Je vais vous parler aujourd'hui de simplicité.
Très bien. Et à 17h55, celui qui chante comme Manuel Valls fait de la politique. Il parvient à se faire détester dans de nombreux endroits du monde. C'est Frédéric Fromet qui viendra nous chanter son actualité.
Et voici celui qui va présider notre joyeuse assemblée. Je vous laisse annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Régis Laspalès.
Ah, ouais.
France Inter, Charline Panounaker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Régis Laspalès.
Merci.
On peut vous voir en ce moment au théâtre dans Fric Frac d'Edouard Bourdet. avec Julie Depardieu, qui était hier l'invitée de Antoine Decaune dans Popopop, qui nous précède.
Je pense que nous ne sommes pas partenaires de la pièce, malgré tout.
Non, c'est vrai, mais on va avoir votre point de vue maintenant, avec Michel Faux, Emeline Bayard, Georges Becot, entre autres, je les citerai tous tout à l'heure. Dans une mise en scène de Michel Faux, c'est en ce moment au Théâtre de Paris, Alex Vizorek est allé vous voir.
Et oui, je suis allé vendredi dernier avec Hippolyte Girardot, nous sommes allés en couple, et nous avons beaucoup apprécié voir ce trio, qui est presque un quatuor, parce qu'on peut rajouter oui. Emeline Bayard avec ça, évidemment les seconds rôles sont super, mais il y a vraiment une équipe à quatre. Pourquoi je dis trio? Parce que le film qui a rendu cette pièce célèbre, c'était Michel Simon, donc Michel Faux, c'était Fernandelle, vous, c'était Arletty, Julie Depardieu. Dans une interview, Arletty, elle dit... ils ne se sont plus jamais parlé, ils n'ont plus jamais voulu tourner ensemble, Fernandelle et Michel Simon. Ça se passe bien avec Michel Faux?
Il paraît que ça n'entendait pas du tout. Ça se passe à merveille avec Michel Faux.
Ça se voit sur scène. Elle disait aussi que Fernandelle avait pas mal de difficultés à jouer ça parce qu'il fallait jouer un parigot. Et ça n'a pas changé. C'est-à-dire que le texte est toujours dans son jus. Il y a toujours beaucoup de mots d'argot. Est-ce que pour vous, ça a été facile?
Non, mais enfin... Oui, on est plongé chez les Titi parisiens, chez les petits bandits des années 30, dans ce Paname très pittoresque, des petits malfrats. Alors, il y a beaucoup de mots d'argot, mais ça, on les apprend, puis voilà.
Pour parler de l'histoire, on est un peu entre les Sous-doués et Ocean Eleven. C'est-à-dire qu'il y a un casse, mais c'est pas vraiment fait par les
ils sont pas très doués, il faut dire. Ils sont pas très doués. Le langage, c'est un peu aussi, ça évoque un peu Céline et puis Audiard aussi, peu avant l'heure.
Oui, parce que la pièce a été créée en 36 à la Michaudière, rejouée à Antoine en 50 et puis plus. Alors,
elle est là.
Qu'est-ce qui fait que pendant 70 ans, ça vous a convaincu quand vous avez lu ce texte?
Vous savez, Édouard Bourdet, c'était un grand auteur, mais il y a des auteurs comme ça qu'on délaisse. Mais moi, ça a fait tilt quand Michel Faux m'a parlé de ça, parce que justement, au cours Simon, je travaillais fric-frac. Ah. Alors, tiens, j'avais un bon souvenir de ça.
Ce rôle-là?
Oui.
Ou l'autre?
Je crois que c'était l'autre.
Ah.
Mais on étudiait fric-frac.
C'est quoi la patte Michel Faux? Est-ce que d'avoir vu, justement, on en parlait hors antenne, Fleur de Cactus ou Peau de Vache, est-ce que ça vous a donné envie justement de rentrer dans toutes ces couleurs? Parce que le décor est exceptionnel.
Ouais. Sa patte, c'est l'originalité, c'est de reprendre des grands auteurs du boulevard d'ailleurs, ou plus anciens, mais de moderniser ça sans toucher au texte. De mettre son univers à lui, qui est très fantasmagorique dans les décors et les costumes.
Mais je suppose que quand on choisit Régis Laspalès, on choisit pas une feuille blanche en matière d'acteur. C'est-à-dire qu'on a quelque chose déjà. Comment il travaille? La Batmute. Mais
on va en parler.
Oui, ça vous a beaucoup fait rire qu'on ressorte.
On va en parler parce que c'est vrai.
comment il vous fait travailler? Est-ce qu'on vous faites travailler comme les autres comédiens?
Oui, il aime les comédiens un petit peu originaux. Moi, il aimait ma personnalité, ma voix, ma façon de parler. Il a vu tous mes spectacles depuis des années, ce que j'ignorais. Il aime les personnalités un peu originales, un peu fortes. Et il nous laisse... on se fond, j'ai eu beaucoup de plaisir à me fondre dans son univers, mais en même temps, il n'est pas là pour me changer, il est là pour... Il laisse les acteurs jouer avec leur personnalité.
Ça se ressent.
Mais
absolument.
Il est très exigeant.
C'est-à-dire qu'on on oublie un peu Régis Laspalès, mais on sait que c'est vous. Enfin, vous voyez ce que je veux
dire?
C'est-à-dire que ça marche, mais comme Fernandelle, quelque part.
Oui, parce que ce personnage, il y a beaucoup de moments quand même assez poétiques.
Il a une grande
naïveté.
Il a une grande naïveté.
Du rire.
Il est amoureux, lui.
Il est quand même amoureux de cette loulou, qui est une prostituée. Bon, évidemment, il ne s'en rend pas compte. Il s'en rend compte quand même très tard, à la fin du troisième acte.
Et il devient pote avec le macro, quelque part.
Oui, il est prêt à tout.
C'est
la femme idéale pour lui.
Juste une petite question pour sortir de ça, parce qu'on a reçu Philippe Chevalier ici, qui était venu pour son one-man show.
Oui.
Il est parti tout seul. Vous allez vous venger, vous allez vous rattraper. On va voir un jour Régis Laspalès en seul en scène seul.
Non, je crois pas.
Non.
Ça me...
Ouais, j'ai l'impression que ça vous motive pas alors qu'on aimerait, je crois.
Je sais pas. Non.
Moi, je vous le dis, mais...
Bon, en attendant, on peut vous voir dans Fric Frac.
J'ai envie de jouer des rôles.
C'est la pièce d'Édouard Bourdet, avec Julie Depardieu, Michel Faux, Emeline Bayard, Georges Becot, Fabrice Kals, Yanis Eziadi, Antoine Cahan, Audrey Langle et Roland Ménou. Et c'est au Théâtre de Paris. Régis Laspalès est avec nous jusqu'à 18h. En attendant, Mickaël Kiwanuka. Oh, on adore écouter. Ouvrez vos esgourdes. Mickaël Kiwanuka sur France Inter. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez Par Jupiter. Notre invité, c'est Régis Laspalès, qui joue en ce moment au Théâtre de Paris dans Fric Frac. Il est 17h21 à Fribourg. Tour de la table, bah, Alex Vizorek.
La Fashion Week commence dans pas longtemps. C'est une info de Christine Gonzalez.
C'est la des Alpes. Ouais.
Parlera musique et Isabelle Sorrente a réfléchi chaque semaine. Et Fromet qui viendra chanter.
Attention, les actualités attention. Radiophoniques.
Pas de requin ici, il y a des gens qui peuvent être méchants, mais ça me fait pas peur.
Le journal de presque 17h17.
Les requins, ça me fait peur. Mais alors, vraiment la trouille. Mais on s'en fout.
Et on commence par les titres.
Pauvre Edouard Philippe, oui. C'est lui qu'on a entendu. À Levallois, Patrick Balkany fait voter une hausse de 56% de son indemnité de maire.
Et je vais vous dire, en ces temps où tous les politiques ne cessent de retourner leur veste, on a un côté rassurant à voir Patrick Balkany qui n'a jamais dérogé à sa ligne de conduite.
Le maillot de Zidane, oui. Qu'il a porté pour la finale France-Brésil 98, il est mis aux enchères et estimé entre 20 000 et 40 000 euros et il n'a jamais été lavé.
Oui, bah si vous trouvez ça sale, dites-vous que ça aurait pu être pire, ils auraient pu mettre en vente le slip porté par Thierry Roland pendant la finale.
Oh. Ouais. Et des brèves.
Des brèves. Dans quelques années, je vendrai quelques brèves aux enchères.
Alors, oui, bien sûr. En attendant tout ça, on commence par le résumé de la soirée d'hier.
Oui, l'émission politique hier soir, et on attendait un petit peu ce fameux débat entre Édouard Philippe et Laurent Wauquiez.
Vous avez un problème avec la vérité, monsieur Wauquiez. Je crains que vous ayez un problème avec la réalité, monsieur Philippe.
Non.
Et c'est chouette, dans un débat, quand les deux ont raison.
On reste à droite avec Patrick Balkany, qui a fait voter une petite hausse de son indemnité de maire, un petit 56%.
Oui, mais ça devient un mec bien en vieillissant, mon patoche, parce que maintenant, quand il pique de l'argent, il s'arrange pour le faire voter.
Et oui, c'est vrai. Que c'est légal ce coup-ci.
C'est légal ce coup-ci. Il s'est dit, je compléterai bien ma retraite de député. Et c'est Levallois qui paierait.
Passons à gauche.
Oui.
Hollande soutient la grogne des régions contre Macron.
De toute façon, Hollande, tout ce qui est contre Macron, il soutient. Si un jour on apprend qu'Emmanuel Macron a chopé la gastro, Hollande soutiendra tous les gens qui sortent des toilettes sans se laver les mains.
Économie à présent, la dette publique de la France atteint 99% du PIB au deuxième trimestre.
Il s'en est fait peu pour atteindre les 100%. Ouais. Je dirais quoi? Juste un déplacement d'Edouard Philippe dans le sud et pouf, on y était.
Ah bah, allons-y, tiens. À Marseille, un policier emprisonné pour détention illégale d'une arme.
Détention illégale d'une arme. Malheureusement, ce policier ne s'appelle pas Alexandre Benalla. Hein, sinon, il serait toujours en liberté.
L'album posthume d'Alain Bachung sortira dans les bacs le 23 novembre.
Petit message aux gens de la SACEM. Si vous voyez débouler dans les bureaux Laetitia Hallyday, c'est normal, faites attention. Hein. Elle va vous raconter qu'elle a une grande histoire avec Alain Bachung.
Une page société à Paris, face au faible nombre de stations de métro accessibles aux handicapés, l'APF, l'Association des paralysés de France, lance aujourd'hui une opération Place de la République.
Oui. Alors qu'il aurait été clairement plus cohérent de la lancer aux Invalides.
Santé, toujours. Selon une récente étude, plus de 2 heures d'écran publicitaire par jour nuit aux capacités intellectuelles des enfants.
Oui, et j'imagine que Nadine Morano a dû grandir dans le rayon télé d'un magasin d'arty.
Sport, on le disait en titre, le maillot de Zidane, porté en finale face au Brésil, est vendu aux enchères. Pas lavé.
J'avoue, ça me dégoûte un peu. Et quitte à avoir le maillot d'un Français qui a gagné la Coupe du Monde, je prendrais celui d'Adil Rami, hein, qui doit encore avoir une bonne odeur de lessive.
Et des brèves.
Des brèves. Montauban, de la cocaïne retrouvée dans des bouteilles de lait.
Papa, c'est quoi cette bouteille de lait?
C'est de la bombe!
Allez, la dernière.
Ouais, une habitante de Haute-Loire a légué 1 million d'euros à sa commune. C'est l'anti Patrick Balkany.
Merci Alex Vizorek.
On est informé, c'est bon.
17h25, on part sur de bonnes bases donc pour discuter avec Régis Laspalès qui est avec nous. Et ce premier sujet, les amis, Amélie Nothomb vient d'être détrônée par Éric Zemmour qui devient numéro 1 des ventes de livres. Bravo, je ne sais pas quoi dire d'autre. Aux Pays-Bas, attention, la traduction de Mein Kampf est sortie le 5 septembre et c'est déjà la meilleure vente de la rentrée dans la catégorie non-fiction. Et cela sans campagne de promotion de la part de la maison d'édition.
Et en Belgique néerlandophone aussi.
Voilà, il y a déjà 3000 exemplaires en Flandre, 15 000 aux Pays-Bas. Et en France, donc le best-seller qui éclipse, bah alors là, tous les bouquins de la rentrée littéraire, c'est Zemmour. Vous en pensez quoi, vous, chez vous, par exemple?
Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, Monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche étant simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons.
C'est Blié.
C'est Blié, tout à fait. C'est dans Le Cave se rebiffe, le film de Gilles Grangier.
Bien dans
ça rappelle
de,
un peu le... Oui, dans Fric Frac, il y a du cave.
Oui, c'est moi.
Oh, Maurice Biro est exceptionnel. Et à la fin, c'est
alors là, oui. Ah non, mais Le Cave, c'est un film extraordinaire.
Régis Laspalès, est-ce que vous vous sentez bien en phase avec un pays qui lit massivement Zemmour et qui le hisse numéro 1 des ventes dans les librairies?
Je ne lis pas tout ça. Je viens de relire Objectif Lune de
Hergé.
Donc, vous voyez, je révise mes classiques plutôt, je préfère.
Ouais, je comprends.
Et si on vous l'offrait, hein, je sais pas, à Noël, sous le sapin, vous ouvrez?
Je ne fais pas de sapin, justement.
Pour éviter.
Pour changer de famille.
Je me disais aussi, tiens, parce qu'on mettait aussi cette information qui nous a quand même sidéré, la deuxième meilleure vente en Hollande, c'est Mein Kampf, juste derrière un livre de recettes.
Et on espère tous que bientôt un livre de recettes nazi qui va sortir, bah oui, parce que là, il va...
On prend un cas de figure, Régis Laspalès. Vous êtes invité chez quelqu'un, vous prenez l'apéro et puis pendant qu'il est à la cuisine, vous parcourez sa bibliothèque, comme ça. Hop, hop, hop. Et puis à un moment, bim, il y a Mein Kampf. Comment vous réagissez? Vous lui en parlez ou pas?
Ça voudrait dire que je suis chez lui, invité à dîner.
Chez quelqu'un, voilà.
Vous avez bien contourné le sapin, vous ne pouvez pas contourner cet exemple-là.
Ça fait beaucoup de probabilités quand même... bizarre.
Pensez que vous n'avez pas d'amis qui achètent Mein Kampf?
De toute façon, il n'est pas encore sorti en France, je pense. Non, c'est 2020. Non,
j'espère.
Ouais. Ouais. Mais dans vos choix, notamment pour la télévision, c'est souvent les grands auteurs. Vous avez cité Octave Mirbeau dans Les Affaires sans les Affaires. Mais non, mais justement. Non, je vais faire la transition. Vous avez fait Balzac, vous avez fait Maupassant.
Ah oui, Maupassant. Ça plaisait beaucoup, ça. Mais, ils l'ont enlevé.
Donc, vous êtes un grand lecteur. Vous choisissez avec attention vos
classiques. Il faut essayer quand même de connaître un peu ces classiques. Mais déjà, on n'aura pas assez de toute sa vie pour connaître ses classiques.
Ouais. Et donc vous lisez peu
donc
la littérature contemporaine.
Donc je lis peu les voilà oui.
Et il faut vraiment que quelqu'un vous dise ça. Il faut que tu l'aies lu pour que vous déniez le fait.
Non, je lis beaucoup évidemment de scénarios, de pièces. Donc après, si on veut relire les auteurs classiques, ça fait déjà beaucoup de temps déjà.
Je suis tellement d'accord avec vous, tous les Français devraient faire ça.
Alors, je vous rassure sur l'information sur les chiffres des ventes de Mein Kampf en Hollande et en Flandre, en Belgique. C'est un article qu'on a trouvé sur le site de la RTBF et qui explique qu'il y a beaucoup de gens qui l'achètent pour le point de vue historique. C'est-à-dire par curiosité de se dire...
C'est une version annotée, vraiment. Ouais, enfin, tout le travail dont il y a eu le débat en France il y a quelques mois a été fait en néerlandais et voilà, sans doute arriver ici.
Et donc, ça n'empêche pas qu'on trouve ça absolument dingue. Est-ce qu'une réaction peut-être autour de cette table, Amélie Nothomb? Peut-être que c'est un peu la faute d'Amélie Nothomb. Peut-être que si elle s'appliquait mieux, elle serait première et ce ne serait pas Zemmour.
Oui, il faut qu'on l'encourage.
Encourageons nos auteurs.
Qu'est-ce que le milieu littéraire en pense?
Alors, je ne sais pas si je suis habilitée à représenter tout le milieu littéraire.
Non, parce que je ne sais pas qui...
C'est un papier dans Le Parisien aujourd'hui en France, qui explique que Zemmour a détrôné Amélie Nothomb.
Qui est dit Zemmour, mais...
C'est le même que celui d'Amélie Nothomb.
Il n'a pas un peu les mains sales?
C'est Albin Michel.
C'est Albin Michel, c'est le même.
Gros score pour Albin Michel, hein.
Non.
Ça me laisse perplexe.
Oui, bon. Voilà. Vous savez quoi, passons à la musique, parce que tout ça, nous, on en rit pour pas être déprimé, mais je pense que la musique, c'est une bonne solution, Régis Laspalès, pour
tout
respirer un peu. Hein.
Tout à fait, musique.
Hein. C'est fascinant, hein, depuis tout à l'heure, je vous regarde, parce que je me dis, mais en fait, vous êtes une vraie personne. Vous existez vraiment dans la vraie vie. Ça me touche énormément.
Alors, je crois que c'est un compliment.
C'est un compliment. Au-dessus des violences ordinaires de l'humain, il y a Dieu. Alors, n'ayez pas peur, hein, je suis toujours athée, une jolie petite fleur plantée au gré du vent sur la terre française qui s'éteindra un jour comme toutes les fleurs, toutes fanées, non sans avoir explosé de toutes mes jolies couleurs. Non, je ne survivrai pas à mon ego, encore moins en suivant un barbu au ciel. C'est plutôt le fantasme divin qui m'émerveille. Prenez Bowie, j'ai lu que vous étiez fan, monsieur Laspalès. Bowie, à la fin de sa vie, écrit l'album Black Star, son testament musical, un disque hautement mystique, hors du temps, désintéressé du passé ou du futur, focalisé sur ses derniers instants, ceux du vrai, là où les mesquineries de l'homme n'ont plus lieu d'être. Eh bien, pour rendre hommage à Bowie, 2 ans après sa mort, des femmes, Anna Calvi, Jeanne Hadid, Sopenskin et Laetitia Sadier rejouent le disque. Et comme par hasard, ça se passe dans une église, la basilique de Saint-Denis. C'est beau et c'est à regarder et à écouter sur le web Arte Concert. On the day of execution, only women even smile. The center of it all. Ah ouais, ça file pas des émotions comme ça, la gueule orange de Zemmour, hein. Oui, car au-dessus des violences ordinaires de l'humain, il y a la mort. On est tous tout petits devant la mort. Alors on la joue avec des chœurs et des tas d'instruments, on écrit des requiems. On m'a dit que vous aimiez bien R, oui. Monsieur Laspalès. Oui, oui. Alors je vous propose de tenter un autre duo pop électronique français du futur qui sortent leur premier album aujourd'hui sur le label Cracky Records, Agar Agar, et leur disque The Dog and the Future. Et devinez quoi? Un requiem. « Agar Agar avec Didier Varro d'ailleurs ce soir sur France Inter. Bon alors, rassurez-vous, je vais très bien. Même si ça choque un peu les gens que j'écoute Léonard Cohen pour faire le ménage en chantant Poupilou, Suzanne, elle est down. Mais pour installer une petite ambiance joyeuse comme ça avec Cohen dans mon appartement, je vais très bien, merci, je suis juste un peu fou. Car au-dessus des violences ordinaires de l'humain, il y a l'extravagance. Imaginez une femme enceinte jusqu'aux oreilles qui danse en noir et blanc dans une crypte, son gros bide à l'air, avec juste un slip et un manteau de fausse fourrure. Ouais, fou. Elle chante avec un accent espagnol catalan. Il était fou. C'était bien avant Manuel Valls, hein, donc n'y voyez pas de référence politique. Juste une chouette chanson de Jure, J-U-R, des Enfants de la Balle qui sortent leur nouveau disque le 19 octobre. Il était fou.
Il était fou. Il était fou. Il était fou. Il était fou. Il était fou. Il était fou. Oh, oh, oh. Il était fou.
Eh ben oui, mais c'est parce qu'il y a un petit trou dans le morceau. Je vous laisse découvrir ça sur le web. Oui, car au-dessus des violences ordinaires de l'humain, il y a l'humour. C'est donc avec cela que je terminerai cette chronique foutraque. Bancal Chéri, à voir en concert à Paris le 5 octobre prochain au Pan Piper, avant une tournée en France. Des musiciens qui se rencontrent lors d'un hommage à Bobby Lapointe. Ils se trouvent, ne se quittent plus, Dimonet, Nicolas Jules, Roland Bourbon, Humbert Humbert, c'est du rock comme on l'aime, Bancal Chéri, les épaules.
Non plus pour la biguine. J'ai pas les pas pour la bourrée auvergnate. J'ai pas les pas pour le marche ou crève. J'ai pas les pas et ton amour. Je l'ai plus mais pour le rock and roll. J'ai les épaules, le rock and roll. Pour le rock and roll. J'ai les épaules, le rock and roll. J'ai pas les pas pour le boogie woogie. J'ai pas les pas pour le tous ensemble. J'ai pas les pas et pour le jerk. Non plus pour la samba. J'ai pas les pas pour le cha-cha-cha. J'ai pas les pas pour le 14 juillet. J'ai pas les pas et ton amour. Je l'ai plus, mais pour le rock and roll, j'ai les épaules, le rock and roll. Pour le rock and roll, j'ai les épaules, le rock and roll.
Les épaules par Bancal Chéri.
Oui, et avant c'était Jure, J-U-R, et Agar Agar et David Bowie, qui est mort.
C'était beau. Merci, ouais, merci Mélanie Bauer. Bancal Chéri, il y a donc un album hein, avec
oui, oui, effectivement.
Qui est disponible. Merci Mélanie. Il est 17h37 sur France Inter. Il est 17h37 à Paris, à Fribourg. Régis Laspalès est en notre compagnie. Il joue au théâtre ce soir, Fric Frac, d'Edouard Bourdet. Et en attendant, à côté de vous, il y a donc
notre ami suisse qui s'en mêle un peu les pinceaux dans la géographie parfois. Et on la comprend. Dans la RTS, Christine Gonzalez.
Parce que c'est la Fashion Week en ce moment à Paris. Voilà. Fashion Week à Paris, oui, qui n'en finit pas de faire de l'ombre à New York, Fribourg, Londres et Milan. Il y a toutefois une autre Fashion Week qui surpasse de loin celle de Paris, c'est la Fashion Week de l'au-delà. Vous voulez que je vous y emmène ?
Ah oui, oui.
Alors on y va.
C'est déjà rigolo.
Comme souvent, c'est Dior qui ouvre le bal. Christian Dior est à mes côtés. Christian, bonjour. Sur le podium, une femme superbe, n'est-ce pas ?
Et je crois que maintenant, nous entrons dans l'ère d'une nouvelle femme.
Et quelle femme ? C'est Eva Gardner qui défile.
Très nette,
oui.
Très élégant,
oui.
Très jeune.
Très déterminée aussi.
Très décidée, qui a le corps idéal.
Idéal pour porter ce superbe manteau en fourrure de Mabrouk, le chien de 30 millions d'amis. Et un décolleté, ma foi, très discret.
Il n'y a plus de grand décolleté et périmé maintenant. Il faut trouver autre chose.
Autre chose peut-être cette robe aérienne dans un camailleux de teinte pastel, d'une justesse absolue. Comme quoi, Christian Dior, on peut tromper 1000 personnes une fois, mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois.
Ma chère, on peut construire 100 fois la même maison, on ne peut jamais faire 2 fois de suite la même robe.
Quittons Christian Dior pour changer de couturier, voir un peu ce qui fait le succès de cette Fashion Week de l'au-delà. Ah, autre ambiance, plus glamour, hein. Nous voilà sur le podium d'Yves Saint-Laurent. Je vais décrire ce défilé sublime, Yves Saint-Laurent. N'hésitez pas à intervenir. Partout face à moi, du noir et du sexy.
Les femmes sont...
très belles, allure chic des années 70, bottes en peau de Laika, chienne de l'espace. Oui, la mode est aux chiens dans l'au-delà, mais pas que.
Les femmes sont...
célinienne, gucciienne, hermésienne, vuittonienne, Yves Saint-Laurentienne, mais surtout éternelle sur ce podium avec ce sac tricoté délicatement en poil pubien de Napoléon. Ça inspire, je ne dirais pas de la nostalgie, je dirais...
l'angoisse.
L'angoisse, Yves Saint-Laurent, l'angoisse qu'exalte peut-être notre consumérisme à chaque Fashion Week.
Cette angoisse a augmenté au fur et à mesure des années.
Et au fil des années filent les collants, somptueux barésis avec strass, fabriqués par des petits enfants morts au Bangladesh. Bon, Yves Saint-Laurent, on va vous laisser, on part voir un autre défilé. Il y a Coco Chanel, pas loin, qui a toujours été réputée pour son caractère fort. Enfin, je ne sais pas si elle a changé.
Et maintenant, elle est absolument insupportable.
Insupportable. Bon, écoutez, on va voir de nous-mêmes. Alors, le défilé n'a pas encore commencé du côté Chanel. Dans le public des grandes stars, s'impatiente. Nelson Mandela, tiens, oui, accompagné comme toujours de sa maîtresse Yvette Horner. Et j'aperçois Coco Chanel en coulisses. Alors, je vais vers elle. Oui, Coco Chanel, une question pour cette Fashion Week de l'au-delà. Vous n'avez pas voulu faire défiler de top modèle morte, pourquoi ?
Parce que je trouve ça indécent.
D'accord, vous avez opté pour un homme plutôt...
affreux.
Affreux, oui, pas très beau, surtout... comment dire
trop gros.
Voilà. Vous faites complètement exploser les carcans, là. C'est un parti pris très fort de faire défiler Raymond DeVos.
Complètement. Oui.
Raymond DeVos, un petit mot avant de vous lancer sur le podium.
Moi, je ne peux pas répondre. Je suis coincé.
Oui, coincé dans cet étrange juste au corps couleur chair. Ça ne vous met pas franchement en valeur. Hein.
C'est ça qui m'agace un peu.
Oui, je comprends. Je comprends, voilà. Ah, je crois que le défilé commence. Mais écoutez, Charline, je vous propose de nous éloigner un peu. On va laisser Coco Chanel et Raymond DeVos travailler et conclure peut-être ce reportage au cœur de la Fashion Week de l'au-delà en citant peut-être mon ami Yves Saint-Laurent. Les modes passent, oui, les modes passent, mais le style, lui, oui, le style, lui, est éternel.
Merci Christine Gonzalez pour ce défilé de l'au-delà avec les archives de l'INA toujours.
Oui, pour la plupart.
Oui.
Oui, carrément toutes.
Bien sûr.
Absolument, j'ai volé personne. Lina. Christian
merci
Dior,
beaucoup.
Tout à fait.
Christine Gonzalez.
Coco Chanel et donc, Yves Saint-Laurent.
C'est dingue. Merci beaucoup. On est sur France Inter en compagnie de Régis Laspalès, Isabelle Sorrente à venir. Et en attendant, c'est autre sujet car cette saison, il semblerait que le théâtre propose de faire revivre beaucoup de personnages historiques. Alors le Figaro pose cette question aujourd'hui. Est-ce par paresse ou par défi ? Et puisque le cinéma fait pareil, que peut apporter de particulier le théâtre quand il redonne chair aux grands personnages de l'histoire ? Quant à la chair en chanson, la voici.
Monsieur Paul Deschanel, désormais est immortel. Il vient de faire un tour, plein d'adresse et plein d'humour. Allant à Montbrison, par la portière du wagon, il s'est jeté sans filet et s'est retrouvé complet. Il n'a pas abîmé son pyjama. C'était pas tant, mais c'est comme ça.
On adore.
Il n'a pas abîmé son pyjama. Il est verni, le chef de l'État.
La chanson de Lucien Boyer, le pyjama présidentiel, puisque le président Deschanel était malencontreusement tombé du train en pyjama. Voilà pour la part d'histoire. Régis Laspalès, donc nous avons lu ce sujet couvert par Le Figaro en page culture aujourd'hui, qui relève que dans la rentrée théâtrale, il y a énormément de personnages historiques, Churchill, Machiavel, Montesquieu, Hugo, Dumas et beaucoup d'autres. Le Figaro pose cette question, défi ou paresse? Est-ce que vous avez remarqué, vous, ça, dans la rentrée théâtrale, vous qui jouez fric-frac, vous regardez ce qui se passe autour?
Oui.
Et vous avez remarqué, vous êtes dit, tiens, il y a pas mal de,
oui, mais
de personnages historiques.
C'est pas... paresse, non, mais de toute façon, il faut bien jouer. Bon, on dit ça aussi de certaines pièces quand on reprend des grands auteurs, mais bon, ça fait partie de notre métier aussi, de les faire connaître ou de les rejouer. Et puis, alors là, il est question des auteurs eux-mêmes aussi, de découvrir qui ils étaient eux-mêmes, en fait.
Un peu dans les coulisses.
Pas seulement leurs œuvres, mais leur personnalité. Et
donc c'est plutôt un défi, parce que j'imagine qu'incarner un personnage historique au théâtre, vous qui avez...
Moi j'ai fait...
Landru.
Oui,
Landru.
Oui, alors bon, c'est Landru, on peut pas...
Historique. Historique.
Évidemment, il est... Oui, dans un autre genre, quand même,
oui,
dans un autre domaine.
C'est pas de Gaulle, ça, on est d'accord.
Hein, c'est pas Victor Hugo.
Mais il y a quand même deux catégories.
Ou Alexandre Dumas.
Il y a deux catégories. Il y a ceux dont on a l'image en tête, certes Churchill par exemple. Et puis, ceux qui sont complètement agréés, Machiavel, moi je n'ai aucune idée de quoi il peut ressembler, de quel
pouvait être l'intonation de sa voix. Oui, c'est marrant de savoir finalement qui ils étaient dans la vie.
Il y en a qui vous... C'est vrai qu'on ne peut pas rester sur Landru. Il y en a que vous auriez envie d'être, de devenir, ou si
je
on vous proposait
pas,
ça.
Bon, Dumas, ça a été pas mal repris déjà. Et puis, il y a aussi des auteurs qui invente un peu là autour, qui invente des dialogues imaginaires ou des rencontres entre des personnages historiques qui n'ont pas vraiment eu lieu, en fait. Mais...
Je me permets de citer une pièce qui s'appelle « Et si on ne se mentait plus », qui est au Lucernaire. Et c'est sur des dîners qu'organisaient à l'époque Alphonse Allais, Alfred Capu, Tristan Bernard, Jules Renard et Lucien Guitry. Et c'est vrai, c'est-à-dire que ces cinq-là se retrouvaient pour dîner ensemble. On ne sait pas ce qu'ils s'étaient dit. Il y a deux jeunes qui ont écrit ces textes-là. Et on a l'impression d'être avec eux. Ils ont inventé. Mais ça part de la vérité, si vous voulez. Donc c'est en ça, c'est chouette, parce qu'on n'aura jamais ces voix-là. Et ils ont repris effectivement des morceaux de chacun et des morceaux de vie de chacun. Donc.
Alors le cinéma fait ça aussi, Churchill récemment par exemple. Dans ce cas, qu'est-ce que éventuellement le théâtre peut apporter, puisque le cinéma fait déjà beaucoup de biopics et s'empare de la vie de grands personnages historiques.
Le biopic, c'est quand la personne est encore vivante.
Ah oui
Non, c'est quand on prend vraiment la vie qu'on retrace. Oui.
Et puis de toute façon, hors biopic, il y a aussi des films avec des personnages historiques de toute façon. Qu'est-ce que le théâtre peut apporter, peut-être parce que le théâtre, on est beaucoup plus proche, on est plus dans la chair.
Oui, je sais pas, peut-être au cinéma c'est plus difficile parce que peut-être le public de cinéma est plus jeune. Je sais pas si les films en historique ont tant d'attrait.
Oui.
Qu'au théâtre, on peut se permettre effectivement
en revanche,
une
pour
proximité.
Pour les acteurs, on appelle toujours ça des rôles à Oscar, des rôles à César. C'est-à-dire que interpréter vraiment quelqu'un qui a existé, qui est connu, c'est un défi qui plaît à pas mal. J'ai l'impression que ça n'a pas l'air de vous exciter, vous.
Ah si,
que ça.
Si, j'aimerais bien. Je ne sais pas ce que je pourrais. Un roi, ça doit être bien de faire un roi.
Mais voilà.
Voilà.
On va réfléchir. Mobutu.
Trouver lequel. Non.
Oh, le léopard, ça vous. Hein ouais. Petite toque en léopard.
Non, je voyais plutôt une autre époque.
J'imagine. Régis Laspalès est en notre compagnie. Et en face de vous, il y a Isabelle Sorante pour nos auditeurs.
Alors, les amis.
Quoi de neuf?
Je vais vous parler de simplicité. Je ne sais pas ce qu'évoque pour vous le mot simple, Charline. Alors, moi, ça me fait penser.
aux petites vieilles qui gardent la monnaie exacte de leurs courses dans leurs petites mains ridées, les femmes simples. La simplicité, ça m'évoque le regard des personnes qui ont beaucoup vécu. Alors la simplicité, c'est une forme de sagesse qui vient avec le temps et avec le fait de se dépouiller d'un certain nombre de choses inutiles. Les traditions orientales considèrent la simplicité comme une force. C'est en ôtant peu à peu les couches protectrices d'un ego tortueux, en renonçant à ses calculs et à ses contorsions, que l'on gagne ou regagne cette limpidité, cette radicalité aussi qui, loin de nous priver de quelque chose, nous permet de prendre les bonnes décisions rapidement, d'être au clair avec nous-mêmes et de ne pas trimballer des casseroles et toutes sortes de démons dont nous ignorons l'existence dans nos valises et nos cartons de déménagement. La même idée se retrouve dans la tradition chrétienne où la formule « heureux les simples d'esprit » décrit elle aussi le bonheur de s'affranchir des calculs, des angoisses et des mesquineries de la petite volonté. Au fond, la simplicité, c'est cet accord parfait et fluide avec la vie que nous trouvons parfois dans des moments de grâce et que nous cherchons péniblement le reste du temps. Et puis là-dessus, vous tapez « simplification » sur Google et vous lisez « Loi Pacte, l'Assemblée vote la simplification des seuils pour les entreprises ». Ce qui veut dire que, parmi les seuils qui imposent des obligations fiscales aux entreprises, le seuil intermédiaire de 20 salariés vient d'être supprimé. Simplification donc. Alors les réactions sont sans surprise, Alex. À droite, on trouve que cette simplification n'est pas assez simple pour les entreprises. À gauche, qu'elle favorise les entreprises mais complique la vie des salariés. Mais que signifie au juste le mot simplification ? Est-ce que c'est la même chose que la simplicité ? D'après le grand Robert, la simplification, c'est l'action de simplifier, résultat de cette action, réduire, une simplification trop sommaire, amputée, schématisation. Alors soyons simples, la simplification aujourd'hui, c'est une réduction d'effectifs qui ne dit pas son nom. Simplifier aujourd'hui, c'est virer des gens. Est-ce que la simplification favorise les gens simples ? Bien sûr que non. Non, licencier, réduire les effectifs n'est pas synonyme de simplicité. Du moins, pas pour celui qui se fait licencier. Mais le mot simplification ne se contente pas de cacher la vérité. Il culpabilise le pauvre, le demandeur d'emploi ou le salarié. Il le culpabilise parce que si je dis que je m'oppose à mon licenciement ou à une injustice, alors je défends mes intérêts ou je fais preuve d'éthique. Mais s'opposer à la simplification, c'est une autre histoire. C'est couper les cheveux en quatre, c'est faire preuve d'une complexité un peu idiote. C'est empêcher les autres d'avancer. Ne croyez pas que les mots n'aient aucun impact sur votre inconscient ou sur votre volonté. Nous connaissons tous au fond de nous la valeur de la simplicité. Nous y aspirons tous à notre façon. Alors, si je me dis que je vais contre la simplification, au fond de moi, je me dis que je suis idiote, que je suis une vieille conne qui complique les choses, que je ne comprends rien, que je n'y arriverai jamais. Tout se passe comme si on m'avait jeté un sort et que ma volonté était paralysée. Lorsqu'on vous jette un sort, la solution est rarement de rationaliser. C'est de répliquer par un sort contraire, c'est-à-dire d'appeler les choses par leur nom. La simplification est tout le contraire d'une chose simple. C'est un calcul tordu et compliqué. La simplification est un mirage qui nous distrait pendant que la planète brûle. Alors restez simple, dites non.
Elle nous avait dit aujourd'hui c'est politique et vous aviez raison.
Isabelle Sorrente, merci. Et le choc de simplification,
bah, c'est terrible aussi. Mais ça, rationalisation, c'est pareil. C'est rationalisation, ça veut dire on remplace des gens par des machines et c'est pas si rationnel que ça quand on y réfléchit.
C'est vrai. Merci beaucoup Isabelle Sorrente.
Ça vous a parlé, Régis.
Bravo. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. En voulant simplifier, on complique.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai.
Vous avez résumé moment. En une phrase là.
Non, mais c'est vrai.
Régis Laspalès est avec nous et je sais que vous attendez beaucoup ce sujet, qui est quand même un beau sujet de fond.
Les gens sont inquiets hein, sur Paris Jupiter.
C'est-à-dire que
ils ont peur que vous massacriez le golf.
Non, mais non, parce que non. Bah, de toute façon, depuis ce matin, toute la France est mordue de golf. Ça, on bien est sûr. Tous obligés. Même sur notre antenne, on suit heure par heure la Ryder's Cup.
La Ryder's Cup.
Ah, pardon, il n'y a pas de S.
C'est pas l'Amérique.
Ah ouais, c'est ça, voilà. Moi, j'en étais resté bloqué là, moi. Ouais. Ouais, alors, bon, alors après, c'est avec, bien sûr, on les connaît tous, hein, Henrik Stenson, Ian Poulter, ou le fameux Tommy Fleetwood, bien sûr. Hein.
Tiger Woods, vous avez pas entendu, lui.
Tiger Woods, Tiger Woods.
Il a changé l'image des Noirs avant
bien
Obama.
Bien sûr. Enfin bon, les gens sont comme des fous derrière leur télé depuis ce matin, c'est dingue.
On rigole pas ici.
Ah bon, c'est vrai? Ah non?
C'est d'une austérité.
Ah, oui.
C'est d'un ennui.
Ah bon?
Cette monotonie monacale.
Ah bon?
Vraiment, je m'ennuie beaucoup.
Ça n'a pas l'air non plus.
voilà, les gens qui regardent.
Il n'y a pas de parti pris dans le show du
non.
son.
Ah non, non, c'est Isabelle Nanty et Valérie Bonneton dans la série France 2. Fais pas ci, fais pas ça. Alors, malgré le fait que vous soyez au théâtre en ce moment, vous n'avez pas que ça à foutre, Régis Laspalès. Est-ce que vous avez eu vent de cet événement mondial?
Oui, 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 ah. bien sûr.
Par quel truchement?
Par le journal L'Équipe.
Ah, vous êtes abonné?
Non.
Non.
Mais je le lis, mais pour le sport automobile un peu.
Ah, d'accord.
Mais donc là, on a l'impression qu'il y a deux personnes, qu'il y a deux spectateurs là dans votre document.
Oui, alors,
il y a
des.
Mais non, il y a des mordus. C'est ouais, ouais. Ouais, alors, moi, je ne pratique pas le,
golf. Il paraît qu'il y a 1 milliard de gens qui vont regarder. Que c'est le troisième sport le plus vu à la télévision.
C'est le troisième événement sportif le plus suivi. Après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde, c'est la Ryder Cup.
C'est dingue. Alors, et comment on est passé à côté de ça, nous?
Pourquoi?
C'est très pratiqué, oui.
C'est
pratiqué.
Mais c'est
pas spectaculaire.
Bah, c'est-à-dire que si vous l'avez.
Si tout à l'heure, il y a une spectatrice qui a reçu une balle.
C'est vrai.
Là, ah oui, ah oui, là, ça devient intéressant.
Mais moi, par exemple, quand j'étais
de golf.
La télé me permettait de découvrir des sports et donc je m'y intéressais. Et après 2 jours avoir regardé du cricket, quand même, qui est incompréhensible sur la BBC, j'avais fini par aimer le sport.
Allongez-vous, on va en
parler. Non, mais donc, peut-être que si vous vous installez dans une télé, Régis Laspalès, ça pourrait vous plaire.
Oui, oui, mais oui, c'est fort possible. Il paraît que c'est assez compliqué. Hein. C'est assez dur, mais il paraît que c'est très prenant. Il paraît que si on commence, on devient...
Mais jamais vous êtes tombé sur du golf à la télé?
Si.
C'est déjà arrivé?
Oui.
Ouais. Mélanie aussi, vous, oui aussi. Il n'y a vraiment que moi.
Alors moi, personnellement, les trous, les balles et tout ça, non.
Il y a une citation de Churchill qu'on nous a envoyée qui disait, Churchill disait, le golf est un jeu dont l'objectif est de frapper une très petite balle dans un trou encore plus petit avec des armes singulièrement mal conçues pour le faire. Donc en gros, ça résume assez bien la
chose. C'est un tweeto?
Oui, mais j'ai vérifié la citation, mais oui, on a un tweeto qui nous a mis sur la voie. Comment qu'il s'appelle? Je ne sais plus, mais il est formidable, on le remercie, ce garçon-là. Je ne sais plus où il est.
On ne sent pas victime d'un peu de propagande, là, moment de la Ryder Cup, par hasard, je pose la question.
Pour revenir sur le côté élitiste.
Bon, un événement pour les passionnés. Hein.
Bah, bien sûr. C'est passionné de Rolex, en tout cas, ils y vont.
L'histoire de Tiger Woods, est formidable parce que il était noir, il ne pouvait pas rentrer dans les clubs de golf à une époque.
C'est celui qui a trompé sa femme.
Oui, mais c'est pas le seul au monde. Et donc il est devenu, alors que son père
moche
était,
quand même.
C'est pas beau. J'avais dit c'est pas beau. Était caddie et donc tirait le sac des blancs. Lui est devenu le joueur que tout le monde adule. Et c'était le Obama avant Obama.
Ah oui, oui, c'est beau.
Donc
c'est beau.
Voilà, il y a des belles histoires.
Ouais, mais
dans
Obama,
golf.
Il est fidèle.
Le jour où ça va tomber, je vous inviterai.
Allez, Régis Laspalès, on arrive au 18e trou de cette émission.
Ah, c'était pas facile, hein. Sur le golf, vous avez c'était angoissé.
Là, oui.
Il est derrière vous, Frédéric Fromet. C'est
Bonsoir.
Le vendredi, il chante une chanson en lien avec l'actualité.
Voilà.
Et de quoi allez-vous nous chanter aujourd'hui?
Bah, vous vous doutez bien que je vais encore faire l'andouille. Et ça n'a jamais été aussi vrai puisque je me suis intéressée au boucher charcutier, persécuté par les extrémistes du boulgour.
C'est nous les bouchers charcutiers, laissez-nous faire notre métier. Les animaux comme les vieux, comme les chômeurs, comme les morveux, comme les maboules, comme les handicapés, ce sont des faibles, faut les buter. Pour nous un être vulnérable rime avec plaisir de la table. Avec ceci, il serait pas insensé qu'on vende des rognons de réfugiés. C'est nous les bouchers charcutiers, laissez-nous faire notre métier.
Si des véganes nous écoutent, vous emballez pas, j'ai aussi un petit mot pour vous à la fin.
Les animaux comme les nains, comme les trisomiques 21, comme les femmes enceintes, comme les drogués, ce sont des nuls, faut les saigner. Je vous mets combien de steaks de myopathe, c'est mort pour les cuisses de cul-de-jatte. Je vous ai mis de côté du foie de clodo, ça fera le repas et l'apéro. C'est nous les bouchers charcutiers, laissez-nous faire notre métier. Les animaux comme les pauvres, comme les illettrés, comme les chauves, comme les Alzheimer, les tétraplégiques, ce sont des nazes, bref.
Quoi?
Bushwick. Qui veut du mongol en paupiette? Qui veut de l'aveugle en rillette? Y'a bien des abattoirs pour vieux malades, même que ça s'appelle des EHPAD. C'est pas pire qu'une soirée concert avec Guédré à la fistinière. D'accord les bouchers charcutiers, je déconne, faites votre métier. Et même que je serais plutôt fan si vous serviez des tripes de vegan.
Frédéric Fromet.
Merci. Voilà. Merci Frédéric.
Après on gère les procès. Hein.
Oui, vous inquiétez pas derrière quand on gère tout ça. Vous faites un bisou à Guédré alors.
Exactement, dans la chanson. Voilà, bah, on fait ouais. Un petit clin d'œil mercredi. Chacun son tour.
Voilà, entre chansonniers à la guitare.
Exactement.
Merci beaucoup Frédéric Fromet. Vous jouez ce week-end?
Oui, en Belgique.
C'est pas vrai.
Ouais, mais je sais plus où.
Ah, bon, c'est pas Fribourg.
On sait pas. Non, c'est pas.
D'accord, je voulais vérifier. Merci beaucoup les amis et merci beaucoup à Régis Laspalès.
Merci à vous.
Qui a passé cette heure avec nous. Je vous rappelle que vous jouez au théâtre en ce moment, Théâtre de Paris dans Fric Frac, du mardi au samedi à 20h45, le dimanche à 15h30. C'est la pièce d'Edouard Bourdet avec Julie Depardieu, Michel Faux, Emeline Bayard, entre autres, et dans une mise en scène de Michel Faux. Merci beaucoup les amis, merci à toute l'équipe, à Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud, Ramzi Assadi, notre formidable stagiaire Paul Plumet, à la réalisation Anne-Sophie Ladonne, à la technique Fabrice Desmaz et... tout seul, Fabrice Desmas tout seul parce qu'il est parce que c'est notre héros, il est formidable. Merci les amis, merci à tous. Je laisse le mot de la fin à l'info principale du jour.
C'est la Fashion Week à Fribourg.